le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Le texte du billet précédent nous parlait de l'ampleur de la tâche à accomplir pour que l'on passe d'une minorité heureusement croissante de tendance à vouloir changer le monde à une majorité déterminée. Les choix s'effectuent désormais sur des régimes politiques de plus en plus autoritaires, et la tâche de convaincre devient de fait de plus en plus délicate dans sa mise en application, d'autant que la criminalisation des mouvements de contestation tend à devenir la nouvelle norme et rend le dialogue social d'autant plus difficile. Cependant, entre la tendance actuelle souvent frileuse en termes de solutions fermes et radicales et celle peu souhaitable d'avoir à convaincre par la contrainte despotique, doit être possible une voie de la résolution. De quoi celle-ci pourrait être faite d'autre que de ténacité et d'endurance, dans le temps, à exposer sans cesse la réalité de désillusion que le plus grand nombre refuse d'identifier. Ce fait, conjugué à une détermination de camper sur des positions plus amplement inflexibles que spectaculairement sporadiques et éphémères. Mais, et c'est bien là que la question se situe, quelle est l'identité réelle de cette voie, si ce n'est celle d'une question qui revient sans cesse, lancinante pour ne pas dire angoissante, et qui est celle de découvrir au fond vers quelle ambition réelle tend la nature humaine dans son postulat de civilisation. Une ancienne tendance manichéenne, rendue discrète par des consensus possibles jusqu'ici, n'est-elle pas moins obsolète qu'on veut bien nous le faire croire? Et d'ailleurs, celle-ci n'avait-elle pas du moins le mérite de nous rappeler qu'en nous se trouvent le bien et le mal, et que seul le combat livré par chacun en lui-même à ce sujet peut nous prémunir d'une société versant définitivement dans le projet le plus néfaste? Et cette question présentée le plus souvent sous son version religieuse ne déborde-t-elle pas en réalité de ce cadre idéologique? Chacun peut, en réalité, apprécier cette dualité en constatant qu'il ne voudrait pas que ce qu'il a fait de mal à l'égard d'autrui se produise pour lui-même. On est là bien loin d'un postulat idéologique et beaucoup plus proche d'une réalité concrète. Ainsi, ce combat livré en et hors de nous-mêmes pour nous garantir l'existence d'une société allant vers le meilleur égalitaire, nous préservant ainsi des méfaits de l'excessif, est-il vraiment utopique? Utopie ou incapacité d'envisager autrement que ce que la force d'un conditionnement très tôt opéré nous oblige à croire? Ce conditionnement joue certainement un rôle prépondérant dans la société actuelle, mais il ne tient qu'à nous d'apprendre à lui tenir tête et de dévoiler son échec, y compris dans le domaine matériel de notre existence, devenu largement plus encombrant que dispensateur de bienfaits. Pour ce faire, peut-être serait-il bon de commencer par apprendre à ne plus nous reconnaître dans ce que nous avons pris l'habitude d'être, de prendre le risque de se perdre dans ce pessimisme redouté qui, pourtant, pourrait nous permettre de contrer l'euphorie lénifiante d'un optimisme optimisant jusqu'à nos propres renoncements. Le dernier article du dernier volet de cette thématique consacrée au militantisme, intitulé « Altermondialiste tout terrain », écrit par Jacques Nikonoff et paru dans Le Monde diplomatique de mai 2004, peut donner à ce pessimisme la capacité de muer en la réalité d'une nouvelle dynamique sociale, seule capable de mériter le terme d'optimisme que l'économie de marché nous a appris jusqu'ici à galvauder. C'est en tous les cas une perspective, qu'elle soit utopique ou non, en laquelle il peut être réjouissant de croire.
Ces dernières années, les choses sont allées bien plus vite que beaucoup ne le pensaient. Le système de la mondialisation néolibérale craque de toutes parts, même s'il ne faut pas croire qu'il tombera comme un fruit mûr. À l'échelle planétaire, un vaste mouvement appelé altermondialiste est en train de se former et poursuit sa progression. Comment peut-il franchir un seuil quantitatif et qualitatif décisif dont beaucoup d'indices montrent qu'il est à portée de main? Car c'est vers ce mouvement que se tournent, nombreux, les regards de ceux qui ne supportent plus ce monde injuste et absurde et qui cherchent des solutions de rechange. Les mérites historiques du mouvement altermondialiste est d'avoir engagé un vaste travail de mise à jour et de déconstruction de l'idéologie néolibérale, accompagné notamment dans les forums sociaux d'une intense production d'alternatives et d'une multitude d'initiatives. Ces activités font apparaître de plus en plus nettement que la mondialisation est un processus politique auquel s'oppose désormais un autre processus politique, le mouvement altermondialiste lui-même. Émergeant du rideau de fumée qui en avait longtemps dissimulé la nature profonde, la mondialisation apparaît avant tout comme un système de dénomination du Nord sur le Sud, du capitalisme anglo-saxon sur les autres formes de capitalisme, des possédants sur les démunis. Au point où l'on peut dire que cette mondialisation-là est la mise en œuvre concrète de l'idéologie néolibérale. La mondialisation, en effet, n'est pas tombée du ciel. Elle n'est en rien une étape nécessaire dans une évolution naturelle du système économique ou de technologie. Elle est bel et bien la conséquence directe de multiples choix et décisions, en premier lieu politiques. Elle est même un choix stratégique effectué progressivement après 1968 en visant à rediscipliner le salariat des pays occidentaux par le chômage et les peuples de pays pauvres par la dette. Il serait néanmoins vain de nier les évolutions qui se sont produites sous l'effet de la dynamique propre du capitalisme, notamment dans les domaines de la financiarisation et des technologies. Mais ces transformations ont été récupérées et orientées par les stratégies mises en œuvre par les tenants et les révolutions conservatrices initiées par M. Ronald Reagan et Mme Margaret Thatcher à partir du début des années 1980. Ces décisions, contribuant à l'extension de la mondialisation néolibérale, ont été prises à côté des gouvernements et des instances multilatérales par des investisseurs institutionnels et les firmes multinationales. Ces dernières ont rapidement compris qu'elles pouvaient réorganiser le travail à l'échelle planétaire pour faire d'une pierre trois coups. Affaiblir le mouvement syndical et les résistances dans les pays occidentaux, en réduisant la taille des entreprises et en les délocalisant pour rechercher davantage de compétitivité. Faire croître leurs profits par la baisse de la masse salariale et en utilisant diverses exonérations fiscales et sociales, sans parler des paradis fiscaux, donner l'impression qu'elles participent au développement du Sud en y implantant des usines. Jusqu'au milieu des années 1970, le capitalisme avait en effet perdu une partie de son contrôle sur certains pays. Stratégie d'équilibre entre les deux blocs dans le mouvement des pays non alignés, et dans certaines entreprises des pays européens, conséquence de mai 68 et des quelques années qui suivirent. Les profits et la productivité baissaient, les salaires montaient et les idées anticipalistes se développaient dans toutes les catégories sociales, notamment dans la jeunesse. Les milieux patronaux et conservateurs s'organisaient alors pour reprendre la main sur les plans idéologiques et pratiques dans les entreprises, les médias, les institutions internationales, certains partis politiques et les appareils d'État. Face à la mondialisation néolibérale, nul ne peut plus croire à l'impuissance du politique et rien ne sert de former des vœux quotidiennement et par acquis de conscience pour que les politiques reprennent le contrôle de l'économie. En réalité, elle n'a jamais perdu la main. Le consensus de Washington est bien un projet politique, consciencieusement et systématiquement mis en œuvre. De la compréhension et de la nature exacte du phénomène de mondialisation dépendra la pertinence des alternatives à lui opposer et à la voie pour y parvenir, c'est-à-dire la construction d'un mouvement alternatif en tant que processus politique et culturel d'émancipation humaine. Ce mouvement ne doit pas jouer simplement un rôle de poil à gratter pour des instances multilatérales, les gouvernements, les élus et les responsables politiques. S'il se contentait au registre compassionnel, l'altermondialisme ne serait certainement pas inutile, mais il se priverait de toute perspective historique s'il demeurait aplati sur le présent. En adoptant un slogan « Un autre monde est possible », il a fixé clairement son ambition, l'instauration d'un nouvel ordre social, économique, politique et démocratique mondial. Dès lors, le contenu des propositions qui restent à approfondir est inséparable des moyens pour leur donner corps. Dans ce contexte, la notion d'alternative mérite d'être précisée. Un examen superficiel pourrait laisser croire qu'elle reprend seulement, mais sous une autre appellation, ce que les partis politiques nomment « programme » et les syndicats « revendication ». En réalité, elle est radicalement différente dans la mesure où les alternatives proposées ont un caractère systémique. Elles sont en effet toutes à la fois mondiales, antilibérale et globale. Seule la mouvance altermondialiste place d'emblée sa réflexion et son action à l'échelle planétaire, comme en témoignent les forums sociaux mondiaux. Seule, elle se fixe des objectifs authentiquement antilibéraux dans sa recherche d'une cohérence à opposer à celle de l'idéologie néolibérale. Seule, enfin, elle tente de développer une approche globale, c'est-à-dire un combat contre le néolibéralisme qui va de comportements individuels aux politiques, des instances multilatérales, en passant par les stratégies des entreprises. On peut avancer à cet égard une autre notion, celle de matrice systémique des alternatives pour identifier les lieux de pouvoir qui produisent et reproduisent la mondialisation néolibérale et qui, dès lors, deviennent des cibles du mouvement. L'objectif est d'infléchir les décisions qui s'y prennent, d'en éliminer peu à peu la logique néolibérale afin de leur substituer les alternatives formulées par la mouvance altermondialiste. La plupart d'entre elles, par exemple la suppression des paradis fiscaux, peuvent généralement être mises en œuvre à 6 niveaux international, continental, national, infranational, individuel et celui de l'entreprise. L'échelon international n'est parfois pas exempt d'ambiguïté. Ainsi, affirmer que les décisions les plus importantes se prendraient au niveau planétaire en laissant seulement des miettes aux États et que cette situation serait irréversible conduit à un piège dans lequel il ne faut pas tomber. À l'échelle mondiale, les peuples n'ont qu'une très faible capacité d'intention. La démocratie représentative, notamment le principe « une personne, une voix » pour les élections, dont on a vu le scrutin régional en mars 2004 en France qu'il était efficace, ne peut s'y exercer. Ce système est idéal pour les possédants, puisque le transfert des décisions à un niveau où le peuple ne peut avoir de prise permet d'asseoir une domination sans partage. Ce n'est toutefois pas une raison pour cesser d'organiser la pression sur les instances multilatérales et d'exiger des gouvernements qui y sont représentés d'y tenir des positions politiques, soutenant les propositions alternatives du mouvement altermondialiste. Si l'on reprend l'exemple des paradis fiscaux, l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et le développement économique, OCDE, chacun dans son rôle peuvent agir pour leur suppression. Le bilatéralisme, c'est-à-dire l'ensemble des relations entre deux pays, est une forme particulière d'international. Il a mauvaise presse car il est assimilé, dans son principe, à une relation nécessairement asymétrique entre deux pays, dont le plus gros va dominer le plus petit. Le multilatéralisme, système dans lequel chaque pays compterait pour une voix, serait alors préférable. Chacun sait pourtant que à l'OMC, au FMI ou à la Banque mondiale, tout cela n'est qu'illusion. Un renouveau du bilatéralisme sur des bases altermondialistes constitue une perspective digne d'intérêt dans la mesure où deux pays peuvent établir entre eux des relations d'émancipation dans une certaine mesure de la tutelle des dogmes néolibéraux. Au niveau continental, la construction européenne cristallise toutes les questions précédemment abordées avec ses directives d'inspiration néolibérale qui, après transposition en droit national, s'encastrent dans la législation des pays concernés. Mais s'agit-il d'un phénomène économique, technologique ou financier ? Il s'agit bien d'un choix politique, et uniquement politique. Et ce qu'a fait la politique, le politique peut le défaire ou le faire autrement. Sera-t-il nécessaire de créer les conditions d'une remise à plat des valeurs et objectifs de l'Union européenne, par exemple par une nouvelle politique de la chaise vide pour refonder l'Europe ? Pour reprendre le cas des paradis fiscaux, l'Union peut évidemment décider de les mettre hors la loi sur son territoire. Le niveau national pose un problème particulier, puisque selon le discours convenu, les principales décisions se prennent à l'échelle mondiale. Les États se trouveraient ligotés. Il ne servirait donc à rien que les habitants d'un pays votent pour les conditions auxquelles ils confieraient le mandat de conduite des politiques alternatives. Si la mondialisation néolibérale est un cadre indépassable, alors nous sommes déjà plus dans une démocratie, puisque, quels que soient ceux qui seront élus, ils ne pourront mener que les politiques identiques à des nuances près. C'est à des tabous très profondément ancrés qu'il faut pourtant s'attaquer, sujet par sujet. De manière pragmatique, doivent être identifiées les marges de manœuvre réelles du gouvernement qui souhaiterait vraiment desserrer ce corset néolibéral. Concernant les paradis fiscaux, le gouvernement français, comme tous les autres, a parfaitement moyen de prendre des mesures, par exemple dans la passation des marchés publics, contre les banques et les entreprises qui les utilisent. Au niveau infranational, il s'agit pour la France des régions départements et communes, les politiques néolibérales ont conduit à organiser la concurrence entre collectivités locales et à amenuiser leurs moyens. Beaucoup d'élus se sont enfermés dans des logiques de survie locale où la simple gestion administrative de la collectivité a pris le pas sur l'approfondissement de la démocratie. Ce rapetissement de leur action commence cependant à être remis en cause avec le développement d'initiatives proprement politiques, comme les budgets participatifs ou l'engagement de collectivités à lutter contre l'accord général sur le commerce de services, AGCS, ou les organismes génétiquement modifiés, OGM. Même sur des sujets qui ne relèvent pas directement de leurs prérogatives légales, les collectivités locales et leurs élus peuvent intervenir politiquement avec efficacité. Dans ces cas des paradis fiscaux, les conseillers régionaux, généraux et municipaux peuvent, par exemple, rompre leurs relations avec les banques qui s'en servent et appeler les citoyens à en faire autant. Au niveau individuel, certains composants de la mouvance altermondialiste appellent chacune et chacun à mettre son comportement en cohérence avec ses convictions. C'est ainsi que de multiples initiatives se développent autour des choix de consommation, de l'utilisation de logiciels informatiques libres ou encore de l'épargne. Pour ne pas en rester à une simple addition d'individus et se transformer en action collective de masse, cette démarche doit néanmoins éviter certains travers. Elle ne peut se présenter comme faisons la leçon aux citoyens et doit bien faire la distinction entre culpabilisation et responsabilisation. On ne peut non plus tout centrer sur le comportement individuel en méconnaissant les stratégies globales de la mondialisation néolibérale. Néanmoins, pour continuer sur le même exemple, le boycott organisé des banques travaillant avec des paradis fiscaux pourrait accélérer leur démantèlement. Au niveau des entreprises, c'est probablement l'Union des industries et métiers de la métallurgie, UIMM, organisation patronale membre du MEDEF, qui a vu juste la première. Elle estime en effet que le mouvement protestataire contre la mondialisation trouve, semble-t-il, un écho grandissant et suscite en dehors du monde de l'entreprise des formes d'action radicalement nouvelles, mais qui auront fatalement, à terme, des retombées sur les entreprises. L'UIMM ajoute que le mouvement altermondialiste doit être pris au sérieux. Ce mouvement se déroule en dehors des entreprises, mais celles-ci en subiront forcément à terme des retombées et elles ne semblent guère préparées à faire face. À cet égard, la participation croissante du mouvement syndical aux forums sociaux est à la dynamique qu'ils ont suscitée et une avancée décisive. Le mouvement altermondialiste ne peut avoir la prétention de faire table rase du passé et de gommer près de 2 siècles de lutte syndicale dont il a beaucoup à apprendre. Inversement, le mouvement ouvrier peut se ressourcer au mouvement altermondialiste. Ainsi, par exemple, l'action des salariés et de leurs syndicats contre les entreprises quand celles-ci utilisent les paradis fiscaux est un objectif réaliste. Le dialogue de travail entre la mouvance altermondialiste et les élus et responsables politiques est nécessaire. D'abord parce que tous ne sont pas des suppôts du néolibéralisme et que beaucoup sont surtout désemparés. Ils attendent des idées et des propositions concrètes, applicables, ici et maintenant. Ensuite, en sens inverse, parce que la mouvance altermondialiste, tout comme les mouvances ouvrières, a beaucoup à apprendre d'eux dans la mesure où ils disposent d'une connaissance des mécanismes institutionnels et des dossiers qui les plongent dans la réalité auxquelles chacun n'a pas forcément accès. Mais si le dialogue, voire la collaboration sont nécessaires, le conflit peut aussi être à l'occasion. Pour reprendre la formule des Raymond Aron, guerre impossible, paix improbable.